Bonsoir à tous. Bienvenue à ce cours sur les actes des apôtres qu'on va prendre ce soir. On va en faire encore une certaine partie. Le cours arrive maintenant. On est dans le dernier droit de cette étude-là. Et nous allons regarder certains aspects de la mise en accusation, encore une fois, que Paul a eu à subir. Donc, pour faire court, on va prier pour débuter. Suivant cela, on va faire notre légère rétrospective qu'on fait comme habituel et suivant ça, la matière du jour. Seigneur, merci. Seigneur, merci de me donner la force, la santé, Seigneur, tout le vouloir et le faire pour se trouver ici, pour se trouver, Seigneur, à exercer ta volonté. Autant moi, Seigneur, que ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, si je peux m'exprimer ainsi, donne-nous, Seigneur, à eux comme à moi comme à eux, Seigneur, notre pain quotidien, notre nourriture, Seigneur, pour remplir nos âmes. Seigneur, que ta parole puisse trouver en nous un bon sol, un sol où elle va pousser des rejetons, un sol, Seigneur, qui va porter du fruit, Seigneur, jusque dans l'éternité, ô Dieu. Seigneur, je nous livre dans tes mains, sachant qu'on ne peut être entre de meilleures mains qu'entre les tiennes, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on va terminer une certaine partie aujourd'hui. Si vous voulez bien, bien-aimés, je vais vous expliquer un peu les trois derniers enseignements qui nous restent. Il nous reste trois enseignements à avoir, c'est-à-dire une aujourd'hui, une le 24 juillet et le dernier enseignement, Dieu voulant, sur Actes des apôtres va se donner le 2 août. Suivant cela, et je le répéterai au dernier cours, suivant cela, je prendrai une pause pour l'étude du livre d'Éphésiens pour bien, même si j'ai fini l'étude, pour bien me retremper et bien cerner le sujet que je vais vous apporter. Donc, je prendrai un temps aussi pour me ressourcer et on reviendra tout de suite le premier lundi de la fête du travail. Et ceux qui seront en présentiel, parce que je présume que dans le temps, on va avoir du présentiel. Pour vous, ça va se trouver être le dimanche suivant, le premier lundi de septembre ou le lundi de la fête du travail. Le dimanche suivant va commencer l'enseignement d'Éphésiens en présentiel, qui sera lui donné cet enseignement-là le lundi suivant, chaque dimanche que je vais donner l'enseignement. Le cours va suivre le lundi pour ceux qui ne seront pas en présentiel. Des gens m'avaient demandé en présentiel. Moi-même, je préfère le présentiel. Mais par contre, on ne veut pas priver non plus ceux qui, pour quelques raisons, que ce soit ne peuvent se déplacer ou n'ont pas le désir de se déplacer, de recevoir la nourriture adéquate, nécessaire. Ceci étant dit, notre ami Paul, l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé, s'est retrouvé ici dans Actes des apôtres. On a vu la semaine dernière au chapitre 24, depuis son arrestation, il a été ballotté un peu. Puis comme je vous ai dit, je ne vous donne pas toute la matière parce qu'on l'a déjà prise la semaine dernière, et on a vu que Paul se fait accuser devant le Sanhédrin. Le tribun Claude Lysias va venir chercher Paul, va l'amener à la forteresse. Paul va demander permission de parler au peuple, permission qui va lui être accordée, et dès que les gens entendent Paul parler de la résurrection et d'annoncer la bonne nouvelle aux païens, il y a un tumulte parmi la foule qui s'élève tout de suite. Les gens lancent de la poussière dans les airs, crient à plein poumon Et le tribun initial se demande qu'est-ce qui se passe, ne comprenant pas trop ce qui se passe, décide de le faire entrer dans la forteresse et de lui faire donner la question par le fouet. Et Paul va dire, t'es-il permis? Il va dire au centenier qui veut lui donner la question, t'es-il permis de battre un citoyen romain sans qu'il ait eu de jugement? Et ceux qui veulent lui donner la question par le fouet se retirent. On a tout lu ça la semaine dernière. Et il va s'acheminer maintenant une mécanique, si vous voulez, où il y a un guet-apens qui va être fomenté pour attenter à la vie de Paul. Et le Sanhédrin, en instance avec ces 40 personnes-là qui veulent tuer Paul, on avait dit que c'était des sicaristes, c'était des tueurs de ce temps-là, qui se mêlaient à un attroupement, à une foule, qui prenaient un petit poignard et s'approchaient de la personne à assassiner et zip, lui filaient un petit coup de couteau à 2-3. Donc, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire avec l'apôtre Paul. Et je vous ai dit que Paul, je vous ai dit que ce serait un peu le verset qu'il faudrait bien retenir de ce qui s'est passé avec Paul. Le Seigneur va apparaître à Paul pendant la nuit, va lui donner une vision, puis va dire, ne crains pas, car de même tu as rendu témoignage dans Jérusalem, de même il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, Paul était certain de se rendre à Rome. Ça ne veut pas dire parce que Dieu nous donne une vision, que Dieu nous dit qu'une chose va se passer, que la chose va être nécessairement aisée ou facile. Et je prendrai ma propre exemple à un certain niveau, un niveau beaucoup plus faible ou plus pâle. J'ai eu un appel au ministère. Je n'ai pas répondu de go à l'appel. J'ai fini par répondre à l'appel. Et ce n'est pas parce que j'ai un appel au ministère que le ministère est nécessairement plus facile. Il y a des jours qui peuvent être plus ardus que d'autres. Et loin de moi la pensée de comparer à ce qui arrive à Paul avec les petites tracasseries que je peux avoir dans mon propre ministère. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Paul avait une promesse de se rendre à Rome. Paul savait qu'il devait se rendre à Rome. Et pourtant, Paul va être mis en péril. Paul va être mis en danger. Et Paul va prendre les moyens que lui donne la loi pour se protéger quand même. Donc, quand les 40 fomentent un meurtre contre Paul, vont voir le Sanhédrin et disent « Fais descendre Paul au milieu de nous. » Puis avant qu'il arrive jusqu'à vous autres, quand ils vont le balader dans les rues, on va l'assassiner. Le neveu de Paul a connaissance du guet-apens, va avertir Paul à la forteresse qui est emprisonnée. Paul l'envoie au tribun. Le tribun, ayant entendu le rapport du jeune homme, lui dit d'en parler à personne, et on était rendu là, prend Paul de nuit avec 200 archers, 100 cavaliers et des montures pour Paul et ceux qui l'accompagnent et l'expédie à Césarée. Il va dire au Sanhédrin, si vous voulez continuer les choses, il va falloir que vous vous adressiez à Césarée. Je l'ai envoyé à Félix. Et Félix, de fil en aiguille, va avoir un successeur qui va arriver là. Et va laisser Paul pendant 2 ans en prison. On pense que Paul aurait écrit certains épîtres-là. Une prison un peu dorée, si vous voulez, je m'explique. C'est que Paul n'était pas considéré comme un prisonnier dangereux à garder d'une prison intérieure, mais il était gardé dans le prétoire d'Hérode. Eux vont arriver, on l'a vu la semaine dernière, avec un orateur nommé Tertulle. Tertulle, ils vont accuser Paul et ainsi de suite. Et encore là, Paul va se servir de sa citoyenneté romaine pour se défendre devant le gouverneur. Et on était rendu à cet endroit-là où cet homme-là, Félix, il faisait ni plus ni moins que venir Paul, l'entendait, et comme je vous avais dit la semaine dernière, pensait recevoir quelques pots de vin, n'en recevait pas, ne retournait pas. Et cela a duré 2 ans. On était rendu là. Dans le chapitre 25, où on était rendu du verset 1, premier verset du chapitre 25, on va faire une longue lecture jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous dit, Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs, 2 ans plus tard, non? Et les principaux d'entre eux, d'entre les Juifs, lui portèrent plainte contre Paul et ils firent des instances auprès de lui dans des vues hostiles. Ils veulent toujours l'assassiner 2 ans après. Ils lui demandèrent comme une faveur de le faire venir à Jérusalem, toujours pour la même raison. Toujours à cause de l'assassinat qu'il avait fomenté. Probablement que les 40 siscalistes qui avaient dit qu'ils le feraient, que ça se tiendrait de manger et de boire, c'est soit qu'ils sont morts de faim et de soif, ou soit qu'ils se sont décidés à rompre leur vœu. Okay? Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Donc, la parole de Dieu est claire, nous dit clairement qu'il demande à Festus que succédait à Félix. Succède à Félix, puis il dit à Festus, quand Festus visite le coin qui va gouverner, si vous voulez, il lui demande d'avoir accès encore à Paul. Regardez bien la réponse. Verset 4. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis à son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et de graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Donc, un autre procès pour Paul. Festus va à Jérusalem, il lui demande comme une faveur de faire descendre Paul juste pour l'assassiner. La parole de Dieu nous dit, ils lui tendent un guet-apens et en fait, ils attendent que le bon plaisir de Festus. Dieu peut influencer qui il veut, quand il veut, comme il veut et n'importe quelle circonstance. Paul devait comparaître devant César. Donc, on peut penser que la pensée venait exclusivement de Festus, mais sachant ce qu'on sait de Dieu et de sa parole, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont demandé à Festus, mais que Paul devait se rendre à Rome. Donc, Dieu, qui est maître de tout, a pu placer dans la bouche de Festus, la parole nécessaire à la protection de Paul, consciemment ou inconsciemment. J'expliquais à quelqu'un dernièrement qu'il y a des choses qui se font dans notre société de façon tout à fait inconsciente. Au niveau, d'eschatologie, et je lui disais, il y a des choses qui se font tout à fait, je ne crois pas que les gouvernances se sont liguées. Je ne crois pas non plus qu'il y a une forme de complot, mais je crois que, somme toute, le tout va mener bien où la parole de Dieu nous dit que ça va nous mener. Fait que je discutais avec lui sur un peu l'eschatologie qui concernerait un peu plus notre époque, et je lui disais, ayons cette confiance-là en Dieu, que Dieu va placer les choses telles qu'elles doivent être placées. Peu importe. Ce n'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. Notre Dieu est au-dessus des événements et les événements n'échappent pas à notre Dieu. Et ici, on en voit un exemple. Eux s'adressent à Festus, demandent à Festus comme une faveur de faire descendre Paul à Jérusalem. Il y avait un guet-apens en vue pour tuer Paul. Festus, de façon naturelle ou influencé par l'esprit, de façon usuelle, peu importe, a apporté une protection à Paul en disant non, que je ne suis pas ici pour assez longtemps, qu'une portion de vous-même, les accusateurs, montez, vous, on va le faire comparaître, mais là, naturellement, Paul a été bien, bien protégé. Là. On va le faire comparer et vous pourrez l'accuser de ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 7, que les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent, portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations dont il n'était pas en état de prouver. Verset 8, Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre les Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Les fameuses trois accusations là, qui étaient à l'origine, Paul, il ressent les choses. Il dit « Ni contre la loi, contre les Juifs, ni contre le temple, parce qu'on l'avait accusé d'avoir entré un Grec. » Et il dit « Ni contre César. » Ceci étant dit, verset 9, « Festus désirant plaire aux Juifs, c'est là que je vous dis entre la volonté de Dieu, entre ce que Dieu peut permettre et ce qu'il peut refuser. Il aurait pu dire aux Juifs, « OK, je vais vous le faire descendre. » Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il aurait été assassiné. Et il fallait qu'il comparaisse devant César. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas un verset de la parole de Dieu qui va tomber par terre. Quand je vous ai dit l'autre semaine, retenez bien dans le verset où Paul va avoir cette vision-là et où il va lui dire « Il faut que tu comparaisses devant César. » Dieu lui dit ça pendant une nuit et pendant cette vision-là que Paul a, qui va comparaître devant César, soyons clairs, Dieu y exprime sa volonté souveraine à lui. Regardez bien quand Festus revient à lui-même, si je peux dire ça ainsi, qu'est-ce qu'il va dire? Festus va dire, après qu'il a dit, non, vous allez monter, Festus va dire, verset 9, « Désirant plaire aux Juifs, répondez à Paul, veux-tu monter à Jérusalem? » Vous devriez y voir une mécanique là-dedans. Le gars, 10 jours avant, il est là. Il dit non, il ne montera pas à Jérusalem. Je ne le ferai pas venir. Reviens chez eux. Eux autres l'accusent. Et là, Festus va dire, veux-tu monter à Jérusalem et être jugé sur ces choses en ma présence? Donc, il était prêt à retourner à Jérusalem avec lui, nous dit le verset 9. Regardez bien la réaction de Paul. Paul sait que s'il monte à Jérusalem, c'est son arrêt de mort. On va l'expliquer un peu encore tantôt, là. Mais au verset 10, Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. Il est devant le tribunal de César. C'est une cour de justice légale romaine. Étant devant Festus, naturellement. C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Verset 11. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont on m'accueille sont fausses, personne n'a le droit. Et regarde bien ce qui est ici, mon frère. Personne n'a le droit de me livrer à eux. Personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Paul va mettre encore en avant son droit romain dont on a parlé la semaine dernière. Paul va mettre encore de l'avant son droit romain. Et regardez comment les hommes sont changeants et ainsi de suite. Festus dit non, il arrive là. Là, il veut plaire aux Juifs tout à coup, hasard, et il va dire, « Tu veux-tu monter à Jérusalem? Moi, avec toi. » Et Paul, sachant très, très bien qui étaient les sicaristes, qui étaient le Sanhédrin, savait exactement ce qui l'attendait sur la route de Jérusalem. Il va dire, « Je vais aller devant César, devant le tribunal de César que je suis aujourd'hui. C'est là que je veux aller. C'est là que je veux que ma cause se rende. » Ceux qui pensent que Paul a fait une erreur en faisant cela. Non, Paul savait que s'il montait à Jérusalem, il allait mourir. Et même s'il se rendait jusqu'à Jérusalem, même s'il était jugé, soit qu'il serait mis à mort, Et même s'il était laissé libre, qu'on disait, en fin de compte, ce bonhomme-là, il n'a rien fait, on sort du temple, sort du Sanhédrin, il n'aurait pas fait 50 pas, puis il sera mort. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là l'auraient attendu dehors, puis le Sanhédrin aurait été content de dire, OK, il n'a rien fait, libérez-le, OK, laissez-le aller. Est-ce que vous comprenez que Paul n'avait pas d'autre option que cette option-là? C'est soit qu'il était là, il décidait de s'en aller à César, soit qu'il revenait à Jérusalem, il se fait tuer sur la route de Jérusalem, soit qu'il passait sous la loupe du Sanhédrin, il était déclaré coupable et on lapidait, ou soit qu'il était déclaré non coupable, renvoyé du temple, et il y avait des gens qui l'attendaient à l'extérieur pour l'exécuter de toute façon. Donc, Paul n'a pas fait d'erreur quand il a fait ça. Paul connaissait très, très bien ses adversaires, la politique interne, et il a tiré sur les bonnes ficelles. D'accord? Verset 12. « Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Pendant les 2 années de détention de Paul, à Césarée, en vue de partir à César. D'ailleurs, c'est là qu'on pense que Paul aurait écrit la prochaine épître que je vais étudier avec vous en septembre, l'épître aux Éphésiens. Il aurait aussi écrit l'épître aux Colossiens et il aurait écrit aussi à Philémon, qui est un particulier. Donc, Festus, quand il est monté à Jérusalem, prend connaissance des accusations, suivant ça, va à Jérusalem et, comme je vous ai dit tantôt, le verset 11, qui n'est pas à négliger, Paul dit « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort. » Donc, il sait, digne de mort, je refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accueille sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Parce qu'il savait que c'est la mort. Donc, pour les tenants de « Hey, Paul était un homme, il a pris une mauvaise décision. Paul était un homme, il a pu prendre des mauvaises décisions. » Mais celle-là n'était pas une du tout. Paul n'avait pas d'autre choix que d'en appeler à César. Sinon, sa vie a encore été plus écourtée. On sait qu'il va mourir sous les Césars, nous dit un peu l'histoire séculière. Mais par contre, nous devons bien nous rendre compte que Paul, Dieu l'amène où le Seigneur a décidé de l'amener. Et Paul est très participant. Et Paul utilise tous les leviers à sa disposition pour ne pas abréger sa vie. Bon, je donnerai bien un commentaire, mais je vais me garder une petite gêne. Concernant des personnes qui peuvent abréger leur vie. Donc, Paul n'abrège pas sa vie ici. Il savait qu'un guet-apens l'attendait. Il savait qu'il serait assassiné. Donc, qu'est-ce que fait Paul? Pour terminer, il va se prévaloir de son droit romain d'en appeler à César. Dans la Constitution romaine, si vous voulez, le droit du citoyen romain dans une province qui avait été jugé et que son affaire n'était pas sûre ou qui avait eu un abus de pouvoir ou que le pouvoir avait été exercé incorrectement, il pouvait, avec naturellement l'accord du gouverneur, ici le gouverneur Festus, avec l'accord du gouverneur, il pouvait en appeler à César. C'est ce que Paul fait. Et on voit dans les derniers versets qu'on a lus au verset 12 où Festus, après avoir délibéré avec le conseil, va répondre « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Ça veut dire qu'il donne son aval, sinon Paul n'aurait pas pu aller devant César. C'était ceux qui étaient recommandés par les gouverneurs des provinces dont César était l'empereur qui pouvaient dire « OK, on va l'envoyer à César. » Donc, la responsabilité de Paul passe maintenant de Festus à César. Versets 13 à 27. Je vous ai dit qu'on couvrait une certaine portion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un exercice un peu fastidieux. J'ai pris le restant de l'étude, j'ai fait des vérifications, comme je vous ai dit, et je l'ai subdivisé pour savoir j'avais combien de matière à vous amener. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir encore trois cours, y compris celui-ci. Chapitre 25, verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus, comme c'était la coutume quand un nouveau gouverneur arrivait en place. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Il dit, « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. » Sa condamnation ici, c'est sa mise à mort. Je leur ai répondu que ce n'est pas coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, verset 17. Ils sont donc venus ici et sans différer, je m'assieds le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ici, je fais un petit arrêt. Notre ami Festus a entendu le débat, a vu, mais lui s'attendait à ce que Paul ait violé des lois romaines. Il comprenait la loi romaine, puis il s'attendait que les choses tournent autour de questions légales, de questions qu'il pouvait traiter. Et quand le roi Agrippa va arriver avec sa femme Bérénice pour saluer Festus, comme je vous dis, quand un nouveau gouverneur arrivait en gouverne d'une province, souvent les subordonnés, soit les rois d'une région comme l'Intudée ou quelque chose comme ça, ou même les préfets et ainsi de suite, ces gens-là allaient lui faire une visite de courtoisie pour lui souhaiter la bienvenue dans ses nouvelles charges. Et c'est ce qu'on voit ici. Festus s'installe et le roi Agrippa vient lui rendre visite et il va dire quelque chose au roi Agrippa. Il va dire, il y a un homme qui m'a été amené, il connaît Agrippa et on va voir qui est Agrippa et pourquoi il lui parle de la sorte de Paul. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, ils disent, les Juifs ont porté plainte et ils voulaient sa condamnation. Puis il dit, quand Paul a été devant moi, ben il dit, verset 17, je siégeais sans différer, je m'assis au lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. Verset 18, les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Regardez bien ce que lui en comprend. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et être jugé sur ces choses. Ne comprenant pas, en fait, il dit, tu veux qu'on retourne à Jérusalem où il y a plus d'érudits concernant ta religion pour qu'on s'en aille. Ça, c'est la raison. Après que Dieu ait encarcané sa pensée pour pas qu'il amène Paul jusque-là, ça se rouvre, puis là, il dit, on pourra peut-être l'amener. Et Paul avait eu le temps de faire appel à César. Ce que je veux que vous voyez, le bon timing de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Comment Dieu contrôle les situations de nos vies, comment le Seigneur est en contrôle même des paroles qui vont sortir de la bouche des hommes. Et je ne vous parle pas de toutes les paroles. Je vous parle de des paroles qui servent à la gloire de Dieu, des paroles qui peuvent servir à mettre de l'ordre dans une église, à des paroles qui peuvent servir à édifier un peuple. Dieu peut nous remplir de ces paroles. Et à ne point douter qu'en l'an de grâce 2021, Dieu le fait encore. On ne rajoute rien à la Bible, mais Dieu peut nous donner une parole pour une circonstance particulière. Comme ça peut nous sembler des paroles des fois qui sont tout à fait ou tout bonnement humaines, quelquefois on ne s'en occupe pas, mais ça n'enlève rien à ce que Dieu fait à travers certaines circonstances. Ici, Festus, ne comprenant pas, va dire au roi Agrippa pourquoi il veut leur tourner à Jérusalem. Donc, verset 19, il dit, ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait vivant, ne sachant quel parti prendre dans ce débat. Je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et être jugé sur ces choses. Verset 21, mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Paul s'en est bien sauvé par la grâce de Dieu, usant de tous ses droits normaux, naturels, de citoyen, même s'il savait qu'il devait comparaître à Rome, Paul a usé des droits normaux. Et quand cela n'était pas à la portée de Paul, comme on l'a vu avant, quand Festus s'est présenté à Jérusalem sans connaître Paul et qu'eux ont demandé à descendre, Dieu intervient. Donc, je dis souvent aux gens, ce qu'on peut faire, Dieu nous le laisse faire parce qu'on est participant à son œuvre. Et ce qu'on ne peut pas faire, Dieu le fait, soyons clairs. Quand les choses vont de pair avec sa volonté, quand les choses vont de pair avec l'exécution d'un plan que Dieu a. Soyons clairs là ici. Hein, je disais à un moment donné à un groupe, Noé a construit un bateau. Un arche. Dieu lui a dit de construire un arche. Construction de l'arche faite par un homme, ça a été long. Il y en a qui pensent 2-3 ans. Non, non, il a pas été s'acheter un bateau préfabriqué. Ce n'est pas du IKEA, son affaire. Il a dû construire un immense bateau. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Environ 120 ans. Il a bâti le bateau. Mais ce que Noé ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. C'est lui qui a amené les animaux. Est-ce que vous pensez que Dieu n'aurait pas pu construire un bateau à Noé? Il aurait été beaucoup mieux bâti, plus confortable. Ce que l'homme était capable de produire, il l'a laissé produire. C'est un leitmotiv qu'on peut voir, une ligne qu'on peut voir tout au travers de la Bible. Même chose pour la résurrection de Lazare. Jésus arrive. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire, c'était ressusciter Lazare. Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était rouler la pierre, d'y rouler la pierre. Ce qu'eux pouvaient faire, ils les ont laissé faire. Ici, on en voit un exemple factuel dans la parole, dans l'exécution de la volonté de Dieu. Festus est là. Eux demandent. Festus, influencé par Dieu, leur dit non. Festus arrive chez eux, à Césarée. Festus demande à Paul, tu veux-tu y aller? Paul, je suis allé à Rome. Paul exerce son droit de citoyenneté romaine, dit je vais à César. On en a, c'est un exemple patent là, ici. OK? Donc, suivant ça, verset 22, Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici en s'écriant, quoi? Qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort, et lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur, c'est sûr, il ne comprend pas. Il l'a dit tantôt, il ne comprend pas. Rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Agrippa, qui était arrivé pour saluer Festus, qui était un de ses subordonnés, qu'est-ce qui arrive dans cette façon de voir de Festus. Il connaît Agrippa, comme je vous ai dit tantôt. Agrippa était d'origine, un historien nous dit que Agrippa était d'origine juive, mais avait été élevé à Rome. Il avait un cœur romain, si on peut s'exprimer comme ça, des coutumes et une formation romaine. Mais par contre, il était juif de naissance et sa femme était au fait même de ce qui concernait la religion juive à ce niveau-là, mais pas de nature religieuse, disons ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il fait comparaître devant Agrippa. Festus va le présenter, il va lui dire, je ne sais pas quoi écrire à l'empereur, parce que les questions dont il était soulevé, j'en suis pas connaissant. Il dit, c'est pour ça que je le fais comparaître devant vous, et surtout devant toi, Agrippa. Et la façon de procéder va être ainsi. Festus, n'ayant pas les compétences, transmet ses compétences, transmet son autorité, si vous voulez, à Agrippa, parce que lui a la compétence de savoir quoi écrire à l'empereur. Regardez bien le restant du discours. Particulièrement, je relève le verset 25 où il dit, pour moi, Festus qui dit ça, ayant reconnu qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à César, à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Donc, Paul aurait pu être relâché. Et je vous l'ai dit, il n'aurait pas fait 50 pas. Verset 1 du chapitre 26. Paul ici se retrouve en entrevue encore pour une lettre soit écrite à l'empereur. Regardez bien. Agrippa dit à Paul maintenant, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, vous allez voir qu'il va creuser Agrippa. Vous allez voir, il sait qui est Agrippa. Il sait qu'Agrippa est au courant des différentes écoles de pensée juives, tractations dans le Sanhédrin, et ainsi de suite. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour te défendre. Et Paul, ayant étendu la main, se justifie en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi et devant de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Verset 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Une allusion au meurtre d'Étienne. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes accès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, vous allez voir là, il l'amène, il fait à la fois une grande déclaration, un témoignage et un enseignement. Vers le milieu du jour, au roi, verset 13, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il est dans la phase témoignage, là. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir, ministre et témoin des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, Paul a eu plus qu'une apparition de Dieu. Que je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire taire. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ devait souffrir et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Dans tout le texte qu'on vient de prendre, là, des versets 1 à 23, naturellement, on ne le prend pas verset par verset, ce n'est pas une étude de verset par verset. Je vais tirer, comme je fais habituellement, les grandes lignes pour vous donner des enseignements très factuels à certains endroits. Paul se retrouve devant une autre instance et Paul, devant cette instance-là, va répéter, va redire, va redonner son message. Il s'adresse à d'autres personnes. Qu'est-ce que Paul fait? Paul nous donne une bonne prédication, une bonne évangélisation, un bon enseignement et il le fait très librement parce que l'homme à qui il s'adresse a une connaissance. Quand je dis souvent aux personnes, il faut adresser à la personne l'Évangile dans la mesure où il est capable de le capter. Tu ne commences pas à parler avec quelqu'un qui te demande « Est-ce que Jésus peut me sauver de mes péchés? » Tu ne commences pas par expliquer les Évangiles synoptiques. Non? Tu ne commences pas par dire « Viens, on va lire deux, trois chapitres de l'Apocalypse. » Quelqu'un te pose ce type de question-là, tu vas ajuster le message. Ici, il s'adresse à des gens d'une certaine culture, mais pas d'une culture qui avait tous une connaissance comme Agrippa possédait, mais il s'adresse particulièrement à Agrippa. Et il va lui donner son témoignage à lui, son témoignage personnel. Ce qui s'est passé à Jérusalem, chemin de Damas, vision de Jésus. Pourquoi? Parce que la chrétienté avait aussi avancé dans ces temps-là. Et il y a des choses, si quelqu'un se tenait au courant, avait des amis juifs, ou était lui-même de culture juive, même s'il avait adhéré, comme Agrippa, à toute la structure romaine, il y a des choses qui parvenaient quand même jusqu'à lui. Et ces choses-là, ça ne fait pas 10 ans là, que l'Évangile est arrivé. On arrive à plusieurs années là, maintenant. On est dépassé les années probablement 50. Là. Et l'Évangile s'est étendu dans la Rome antique. Et si Agrippa avait l'oreille tendue un peu vers sa nation, vers ses origines, bien sûr, et je vous le dis, c'est un peu comme des gens qui habitent un autre pays, tendent toujours une oreille vers leur pays aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été empreints de cette culture-là. Et Paul va parler ici librement, donnant son témoignage ainsi et allant assez profondément parce que la personne qui l'a questionné est de souche hébreu. Et Paul va pousser le message un peu plus loin. C'est pour ça qu'au verset 20, je veux faire une deuxième arrêt, une troisième, en effet, un peu plus haut aussi, où Paul va dire au verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres, pardonnez-moi, dignes de repentance. » J'avais une discussion quelques semaines avec un bien-aimé et je lui disais, la repentance, elle a ses fruits. Il y a des œuvres qui accompagnent la repentance. Si quelqu'un, j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, puis qu'il mène sa vie exactement comme il la menait avant, il a juste accepté une religion. Il n'a jamais accepté Jésus, qui n'est pas une religion. Jésus est venu nous dire, je suis venu vous donner la vie. Des religions, on en avait dans le temps que Jésus est venu. Il n'est pas venu en réformer une, il n'est pas venu en partir une nouvelle. Il dit, je suis venu pour donner ma vie pour mes brebis, puis je suis venu pour leur donner la vie en abondance. Donc, Jésus est venu nous donner la vie. Et cette nouvelle vie-là exige, si vous voulez, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ou s'il y a repentance, normalement, ça devrait suivre. Il y a des choses qui nous dérangeaient pas avant qui devraient nous déranger. Il y a des pratiques qu'on avait avant qui devraient nous déranger. Il y a des conditions de vie qu'on tolérait avant qu'on ne devrait pas tolérer. Parce qu'on a passé par la repentance. La repentance, bien aimé, a ses fruits. S'il n'y a pas de fruits dans cette repentance-là n'est pas de la repentance. C'est peut-être tout simplement du remords, du regret, mais pas de la repentance au sens propre de la repentance qui nous est donnée dans l'Évangile. Je vais attirer votre attention sur les œuvres dignes de la repentance. On ne parle pas là, ici d'œuvres comme on entend dans les religions. On entend d'un volte-face, d'un changement de vie, d'un changement de procédé, d'un changement de faire, d'un changement de caractère, etc. D'accord? Donc, c'est de ça dont on parle. La repentance va demander de la part du repenti une adhésion. Et c'est par cette adhésion-là que Dieu va commencer le travail en nous. Ce n'est pas nous, c'est le travail en nous, fait par Dieu. Il faut qu'il y ait eu repentance. Et Paul le dit clairement ici. Et j'attire votre attention sur le fait que Paul a parlé très, très, très largement de ce qu'il croyait, de ce que les Juifs l'accusaient. Il va donner son expérience personnelle quand il a entendu la voix et il va donner toutes ces choses et il va terminer un peu, mais le point central il va dire quoi vous semble-t-il invraisemblable que Dieu peut ressusciter les morts en voulant dire c'est tout à fait exact parce que le roi Agrippa savait qu'il y avait une bonne faction, une bonne partie des Juifs qui croyaient à la résurrection des morts et aux anges et ainsi de suite. L'autre faction n'y croyait pas, mais en plus petit nombre, soyons clairs. Et c'est pour ça que Paul donne son témoignage comme il le donne là, et je vous ai relevé ces choses-là que je viens de vous relever, où Paul donne de façon très suivie, devant tout le monde, sans gêne, sans honte, la parole, son témoignage personnel et son espérance, la résurrection des morts. Actes chapitre 26, versets 24 à 26. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, pas Agrippa, Festus, qui n'avait pas compris, rappelez-vous, il dit, je ne suis pas convaincu, il dit, je chicanais là, affaires sur leur loi, sur un certain Jésus qui est mort, que Paul disait qu'il n'était pas vraiment mort. Mais là, Paul va plus loin, Festus va dire à haute voix, au verset 24, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Donc, il avoue que Paul est un homme intelligent. Il sait que Paul visiblement du savoir. Mais il dit, ton grand savoir, dring, 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 ça t'a rendu malade, Paul. Parce qu'il ne comprend pas. Il a perdu, à un certain moment donné, Paul parlait pour Agrippa. Il a perdu Paul Festus. Là. Et c'est souvent ce qui peut arriver. Quand je dis souvent aux gens, ajustez-vous sous certains angles. Bientôt, je vais commencer un cours sur le mariage et c'est pas la première fois que je vais rencontrer, si vous voulez, les diplômés là, un peu plus de, on va dire ça, de la forme de haute voltige, là, dans le sens que le monsieur est à la fois un doctorant, à la fois c'est un ingénieur, mais dans quelque chose de très, très, très particulier. Et soyons très, très clairs, mais dans le Seigneur, sa connaissance est somme toute fractionnaire. On va dire ça de même, mais c'est fractionné. Et on va essayer de l'amener à une compréhension un peu plus. Mais peut-être que avec ce monsieur-là, ça va passer un peu par l'intellect. Je vous dirais ça comme ça. Mais au lieu d'aborder sous des traits certaines choses, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il dit là? Ben, il vaut mieux, quand besoin il y a, d'ajuster le discours. Ici, Paul parle à Agrippa, qui est tout à fait d'ailleurs, Paul, il va lui dire qu'il n'est pas fou, mais il va dire, je sais à qui je m'adresse. Et Festus, il lui dit, ce qui arrive quand des gens ne comprennent pas, tu es fou, Paul, ton grand savoir t'a fait déraisonner. Verset 25. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement. Est-ce que vous comprenez? Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce ne sont pas en cachette que ces choses se sont passées. Il dit, le roi est instruit de ces choses. Donc, Paul donne la nourriture pour la personne à qui il s'adresse. On devrait apprendre à donner la nourriture pour les personnes à qui on s'adresse. Paul donne une nourriture assez solide à l'auditoire de Festus parce que Paul sait que le roi Agrippa est instruit de ces choses-là et il dit, c'est pour ça que j'en parle librement. En effet, Agrippa connaissait ces doctrines-là que partiellement, mais il les connaissait quand même, parce que, comme je vous ai dit tantôt, le christianisme était plus obscur dans les années où Paul, où la doctrine chrétienne n'était pas obscure, dans les années où Paul a comparu devant lui à Césarée. La résurrection du Christ était connue. Il y avait beaucoup de croyants dans beaucoup de coins de l'Empire romain. Et la doctrine sur la seconde venue du Messie était là, existait déjà, mis à part celle qui existe encore de la première venue du Messie chez les Juifs non convertis. Mais la doctrine que vous et moi, nous croyons qu'un jour le Seigneur, qui fait sourire des fois des gens, que le Seigneur va revenir pour mettre fin à la folie. De ce monde-là et de ce monde qui est en train de courir littéralement à sa perte. C'est ainsi, je suis en train de lire un livre de M. Vernet. C'est un docteur de la nature sur les plantes, et ainsi de suite. Puis il traite certaines choses bibliques de façon intéressante, voire sous un autre angle, mais intéressante. Tu ne peux pas prendre ce livre-là que je suis en train de lire et le donner à quelqu'un qui cherche le salut. Ça lui sera d'aucune utilité. Il y a beaucoup d'eschatologie dedans. Il y a beaucoup de termes ou de doctrines difficiles à capter, peut-être. Pas que la personne est moins intelligente, tu ne peux pas lui passer parce qu'il est au début de sa marche. C'est comme si je prendrais ma petite fille qui est en première année et je l'expédie au secondaire parce qu'elle est bonne à l'école. C'est sûr qu'elle ne comprendra rien de ce qui va se produire. Pas parce qu'elle est moins intelligente, elle est moins loin sur le chemin. C'est de la même façon dont je suis en train de parler. Et c'est pour ça que Paul disait à Festus, je ne suis pas fou, là. Je sais à qui je m'adresse. Et je lui en donne plus. C'est tellement ça que versets 27 à 29, Paul va poser une question au roi. Crois-tu au prophète, roi Agrippa, et n'attends pas de réponse? Je sais que tu y crois. Parce que Moïse, la loi, les prophètes, ils connaissaient ça, Agrippa. Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la, sur cette déclaration du roi Agrippa, et j'en ferai pas aucune mienne. Parce qu'en fait, même quand tu fouilles les textes, même quand tu regardes l'original, même quand tu fais un peu, que tu vas étaler les racines de mots grecs original, même certains auteurs ont écrit et j'y trouve pas vraiment dans les racines. Ça peut être une ligne de pensée comme un autre, mais de toute façon, c'est rien qui porte le salut. Il y a une ligne de pensée qui dit Agrippa, il a dit à Paul, écoute, tu es en train de me convaincre, toi. Je vais devenir chrétien. Il y en a d'autres qui ont dit Agrippa est en train de dire hey, tu me fais peur là, avec toi, tes affaires. D'autres ont dit il se dit chrétien. D'autres vont dire ben, il se moquait de Paul en disant ça, et c'est peut-être la donne aussi. Ou peut-être, moi j'ai écrit ça, mais ça ne fait pas force de vérité non plus. Là. J'ai écrit, moi, dans mon propre commentaire, il est possible que le sens de la réponse donnée par Agrippa veuille plutôt dire « Paul cherchait à me faire devenir chrétien avec si peu de persuasion. » Peut-être qu'il n'était pas persuadé non plus. Nous ne le savons pas. Il n'y a pas de position ferme sur aucune des interprétations. Donc, je m'en garderai. Dernier verset que je prends avec vous, on va terminer à peu près à l'heure. Actes, chapitre 26, versets 30 à 32. Le roi, le gouverneur, Bénéris et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa disait à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Mais comme je vous ai expliqué, Paul n'avait plus de choix. Paul n'avait plus de choix. Et de toute façon, Dieu lui avait dit, tu t'en vas devant César. Pour un enfant de Dieu, notre vie doit être au service du Seigneur. Et si Dieu nous amène à un endroit, nous amène en entonnoir, je veux dire, ça de même, ça peut arriver, c'est pour sa gloire à lui. Notre vie telle qu'on la conçoit n'est qu'en fait qu'un pâle reflet de la vie, de la vraie vie qui nous attend. Cette vie-ci n'est qu'un reflet, n'est que l'ombre de la vraie vie. Soyons clairs. Je parlais avec un homme dernièrement et je lui disais la vie n'est pas que biologique. La biologie est une partie de la vie. Quand la biologie de ta vie va mourir, c'est-à-dire ton corps, ta vie va se continuer parce que la vie n'est pas que biologique. Ces gens-là se lèvent à la fin et disent « Cet homme-là aurait pu être relâché, cet homme-là. » Mais comprenez bien une chose. Paul était en entonnoir. Il savait que s'il retournait, il va se faire assassiner. Paul, connaissant aussi la volonté de Dieu, savait qu'il devait se rendre à Rome. Et Paul, ne faisant pas de défaut au plan de Dieu pour sa vie, Paul s'est dit, tu n'as pas besoin de me pousser dans l'entonnoir, Seigneur, je vais y aller. Naturellement, Dieu nous donne les choses par section. Le Seigneur, généralement, ne nous dit pas tout du plan. On l'a vu d'ailleurs quand, lors de différentes parties de Actes des Apôtres, où le Seigneur révèle une partie du plan, la personne avant, et la deuxième partie va venir après. Notre compréhension, bien aimé, n'oubliez pas qu'elle est partielle. Notre compréhension de l'œuvre de Dieu, elle est partielle. Notre compréhension de la volonté de Dieu, quelquefois, elle est partielle. Il ne faut pas se cacher derrière ça, mais il est vrai que moi, en tout cas, je savais à un moment donné que j'irais dans le ministère, que j'ai résisté, je n'ai pas voulu aller. À un moment donné, je savais que c'était prêt. Mais je ne savais pas comment la chose se ferait, ayant eu des discussions avec le corps pastoral dans le temps et n'ayant pas trouvé ou arrivé avec eux un consensus, disons ça de cette façon-là, je dis, ben Seigneur, c'est toi qui vas le faire parce que moi, j'ai oublié. Et le Seigneur de me dire, je vais le faire. Maintenant, tu es disposé, maintenant, je vais le faire. Mais comment ça se ferait? Je ne savais pas. Je savais juste où j'atterrirais. Okay? Ceci étant dit, Paul n'a pas agi avec précipitation, comme je vous ai expliqué. Ces gens-là ont dit qu'il pouvait être relâché, mais Paul était certain d'une mort certaine s'il était soit retourné à Jérusalem, même laissé libre à Césarée. Paul n'avait plus d'endroit sûr, entre parenthèses, dans sa position à lui pour l'instant. L'expérience de Paul, et ici je ferme avec ça, l'expérience de Paul révèle la souveraineté de Dieu, la promesse que Dieu donne à quelqu'un. Dieu est souverain et Dieu remplit ses promesses. Et dans sa souveraineté et dans ses promesses, Dieu n'enlève en rien la capacité de l'homme de prendre ses décisions. Et quatre, cela va nous faire moins plaisir. Rien ne peut entraver le plan de Dieu, mais dans le plan de Dieu, il peut y avoir de grandes difficultés. Rien ne peut entraver la volonté de Dieu, mais ça ne veut pas dire, parce que Paul a reçu de Dieu, tu dois aller devant César, que Paul, le chemin serait facile. Et vous allez voir que le chemin va être difficile jusqu'à Rome. D'accord? Donc, la semaine prochaine, notre avant-dernier cours, je vous ai dit qu'on fera trois cours aujourd'hui. On a fait un. La semaine prochaine, on va prendre notre avant-dernier cours. Et on va commencer à regarder le voyage de Paul jusqu'à Rome, jusqu'à aller devant César. Et vous allez voir, volonté de Dieu, difficulté quand même. Volonté de Dieu n'empêche en rien les épreuves de cette vie. On me dira à ce moment-là, pourquoi suivre le Seigneur si on a la vie de monsieur et madame tout le monde? La raison en est simple, bien-aimé. La première, on en aurait plus que ça. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Et même si le Seigneur t'aurait dit à toi, je vais te donner la vie éternelle, puis après ça, je ne m'occuperai plus jamais de toi, de toute ta vie, la vie chrétienne vaudrait quand même la peine d'être vécue. Un, parce que c'est une vie heureuse. Moi, en tout cas, je suis très heureux dans ma vie chrétienne. C'est une vie épanouie. C'est une vie accomplie. Et je vous dirais aussi que on passe très peu de temps dans cette vie face à l'éternité. Donc, c'est une vie qui vaut la peine d'être investie. Je parlais à quelqu'un dernièrement et je lui disais, quand on vient au Seigneur, il faut prendre notre vie, la mettre sur l'autel. Ce n'est pas à personne d'autre à nous de le faire, c'est à nous à le faire. Parce que la réincarnation n'existe pas. On n'a pas deux vies à mettre sur l'autel. On a une seule vie. Donc, soyons un sacrifice d'une agréable odeur au Seigneur, comme Paul l'a été. Je ne vous dis pas que l'un de nous va devenir un Paul. Paul, je crois que c'était un homme d'exception. Mais il n'y a rien qui nous empêche de courir après Paul. Je vous dis ça à la blague, à ce niveau-là. Donc, ceci étant dit, la semaine prochaine, nous reprendrons avec le voyage de Paul en Italie, à Rome. Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. La semaine prochaine, on va regarder, Seigneur, certains pans particuliers, dont, si j'ai le temps de me rendre jusque-là, on va regarder la différence entre la foi et la présomption. Mais Seigneur, d'ici à notre prochain rendez-vous, garde ton peuple, sanctifie ton peuple, Amène ton peuple, Seigneur, à une saine et simple compréhension de ta parole, Seigneur. Dans les peu de mots que j'ai pu leur donner, dans les quelques explications fragmentaires que j'ai pu étudier avec eux, Seigneur, que chacun puisse trouver son pain, Seigneur, et être ainsi nourri. Seigneur, c'est entre tes mains que je remets ton peuple, et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, et la semaine prochaine, le 26 juillet, on prend notre avant-dernier cours. Soyez bénis.